Il n'y a pas de garçon dans cette histoire-là.
Si, énormément. Lorsque le carrousel doit fermer ses portes près de la rue du Colisée, c'est-à-dire tout près de l'Élysée, il va rouvrir rue Vavin, près de Montparnasse. Et là, c'est assez fascinant parce que le patron qui a vraiment fait, enfin, qui a beaucoup d'argent va investir dans Elle et Lui, qui est un cabaret lesbien qui est juste à côté de la rouverture du carrousel. Et là, en fait, il va y avoir des portes communicantes dans les loges. Et on va avoir beaucoup de communication entre ce qu'on appelait les garçons et puis les divas du carrousel. Et parmi les spectacles qui ont lieu chez Elle et Lui, on a des spectacles de travestis où les femmes, hein, habillées notamment en cow-boy ou avec un chapeau melon, font des performances qui font qu'on ne pourrait pas parler de drag king parce que ce serait anachronique aussi, mais c'est tout à fait ça. Donc il y a non seulement ça existe, mais en plus ça communique, on peut dire. Les deux communiquent. D'ailleurs, Bambi a une histoire d'amour avec Uta qui et toutes les deux, Bambi et Uta qui n'étaient pas vraiment trans, mais enfin qui jouaient beaucoup sur le travestissement, vont faire un numéro ensemble, un numéro homme-femme. Et effectivement, si, on peut dire que les garçons ont une place qui est peut-être mineure, mais enfin qui est loin d'être marginale dans cette culture cabaret. J'en profite aussi parce que j'ai passé sous silence que, certes, il y a les divas du cabaret, mais il y a eu aussi, et là je suis assez frustré parce que j'ai pas eu beaucoup d'archives, hein. Et je crois que ça serait un travail d'historien à part entière, mais il faut se renseigner sur ces fameuses athlètes françaises qui ont changé de sexe. Alors, il y a eu, j'en parle dans le livre, Violette Maurice, qui s'est fait faire une mastectomie en 1929, si je ne m'abuse, et qui a énormément médiatisé ça, puisqu'on lui a refusé sa licence de sportive ensuite en disant que c'était un scandale qu'elle soit homosexuelle et qu'elle se travestisse. Officiellement, sa mastectomie, c'est que ça l'a dérangée pour conduire, parce qu'elle
Ah,
faisait.
j'avais entendu parler de cette histoire, ouais. Elle était automobiliste dans.
Voilà, officiellement, ça l'a dérangée pour conduire, mais enfin. Et le biographe qui a fait la vie de Violette Maurice ne semblait pas être très familier de la problématique de l'identité de genre, donc lui, il a pas trop cherché à comprendre si Violette était femme ou homme, mais enfin, il y a déjà une histoire à écrire, je pense, sur Violette Maurice. Et ensuite, beaucoup plus intéressant, deux autres athlètes françaises. Léa Corlat et Claire Bressol, qui sont des artistes des athlètes qui vont avoir, je pense, qui vont emporter la médaille d'argent du 4x100 mètres dans les championnats d'Europe à Oslo, vont changer de sexe, elles carrément. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur une mastectomie, c'est que on va parler ensuite de Léon Corlat et de Pierre Bressol. Et ce que j'aimerais savoir, je n'ai pas réussi à le déterminer, c'est y a-t-il eu opération, si oui par qui ou quand? Et je sais qu'ensuite Léon Corlat s'est marié, a fait son service militaire. Donc là, il y a toute une histoire aussi, je pense, à écrire. Il y a des archives à retrouver et il y a tout un travail à faire sur, on va dire, la catégorie des athlètes sportifs qui changent de sexe. Parce que ça a été un peu, voire beaucoup moins médiatisé que l'inverse, mais ça se passait déjà dans les années donc 30, enfin 20-30 pour Violette Maurice, 40-50 pour les athlètes.
Alors, c'est passionnant, on écoutera ça, je retourne. Petit à petit, donc les stars donc occupent le devant de la scène, et puis petit à petit, on voit apparaître une reprise en main. Alors, cette reprise en main, elle va avoir des éléments déclencheurs. Par exemple, les frasques de Coccinelle se mariant à l'église, faisant des histoires, va bloquer complètement, mais alors brutalement du jour au lendemain, le droit au changement d'état civil. Et petit à petit, tout ce pan de liberté qui vient de loin, qui vient de l'Institut de sexologie, et que les stars ont pu bénéficier, cette espèce de vent de liberté va s'éteindre petit à petit. On va voir la médecine et la justice, la société va reprendre en main complètement la liberté, et le droit de disposer des corps va disparaître, le droit de disposer de son âme, son esprit va disparaître.
C'est vrai qu'il y avait une permissivité, pour autant que les trans étaient des bêtes de scène, des bêtes curieuses, qu'on allait voir dans des lieux précis, la nuit, on les applaudissait et on n'en parlait plus. Mais à partir du moment où les gens comprennent que ces gens-là vivent en dehors de la scène et ne changent pas de costume pour autant et ne demandent qu'à être elles-mêmes, et qu'on les voit entre autres sur les trottoirs, puisqu'il y a aussi, on ne peut pas nier, une bonne partie de prostitution, là les autorités publiques vont saisir l'urgence qu'il y a à contenir et voire à réprimer l'expression public et libre du transsexualisme. Ils ont l'impression que quelque chose leur échappe, et d'où la nécessité d'une réaction. La réaction, c'est que suite au changement d'état civil de Coccinelle, il va y avoir une espèce de moratoire pendant plusieurs années, on va plus les accepter du tout. Et puis la police va intensifier aussi la répression au niveau de la prostitution. Il va y avoir aussi au niveau politique la volonté de surtout pas s'intéresser à la question, c'est de ne pas légiférer dessus. Et au niveau psychanalytique, c'est là que les psys commencent à mettre la main dessus. J'ai cité les phrases de Lacan qui dit, mais ne les écoutons pas. Ne les prenons pas au sérieux, ils sont dans leur délire. On n'est pas là pour les accompagner dans leur transition, on est là pour entraver cette espèce de folie qui est une atteinte à l'ordre symbolique. Bon, on connaît un petit peu toutes les conneries qu'il y a derrière. Donc là, c'est un petit peu le hold-up commence vraiment là, parce que avant Lacan, il y avait déjà eu quelques mises en garde, mais après lui, ça va un petit peu... on peut dire que tout ce qui va être écrit par les psys après, je ne suis pas tombé sur un seul ouvrage de psy qui soit tout simplement... qui puisse avoir la portée d'un Harry Benjamin aux États-Unis, c'est-à-dire non pathologique. En France, on va vraiment avoir cette spécificité d'avoir une production... théorique, pléthorique, transphobe en fait. Jusqu'à aujourd'hui, on est bien passé pour le savoir.
Jusqu'à Doucet.
Oui, mais jusqu'à aujourd'hui aussi, parce que quand on lit ce qu'a écrit Castel sur la métamorphose impensable, on se dit que c'est impossible d'avoir encore en 2000, enfin je ne sais plus quand est-ce qu'il a publié ça, c'est assez contemporain, 2003, d'avoir encore des ouvrages de 600 pages pour nous expliquer que certes ce sont des êtres humains, mais par pitié ne les prenons pas au sérieux. Il faut qu'ils restent objet de notre expertise.
Joseph Doucet reste une exception, en fait. Joseph Doucet est l'exception française.
Joseph Doucet est l'exception française. Alors l'émission est quasiment finie. On va voilà. On va tirer deux petites minutes.
Ça va être un boomerang, Maxime Foster. Il va revenir encore une
Parler quand même deux mots de Joseph Doucet, qui lui va avoir ce rôle de déclencheur.
Oui, quand je dis que c'est une histoire romanesque, on peut dire qu'avec Doucet, on est carrément dans le polar. Parce que c'est une personne absolument incroyable, qui a eu mille et une vies en une seule, et qui est très controversée, beaucoup de zones d'ombre, mais quel personnage extraordinaire, qui va créer le Centre du Christ Libérateur, qui va publier ce livre extraordinaire qui n'a pas tellement pris de ride, sans lifting aucun, qui s'appelle La question transsexuelle, qui est justement le premier livre qui aborde un petit peu le transsexualisme d'un point de vue justement non psychiatrisant. Et c'est un livre vraiment assez exceptionnel. C'est grâce à lui, que, grâce à son lobbying politique, que le Parlement européen va prendre une résolution aussi en faveur des trans, enfin du moins contre la transphobie et la discrimination des trans au travail. C'est grâce à lui aussi que beaucoup de trans vont pouvoir un petit peu avoir une structure d'accueil et de soutien sur Paris. C'est un homme qui, sur la question trans, a vraiment fait un travail extraordinaire. Et c'est quand même un pasteur, c'est un homme d'église, c'est un homme qui a beaucoup de zones d'ombre, et son assassinat pose beaucoup de questions qui n'ont pas été résolues. Mais toujours est-il qu'effectivement, ça aussi, quand je dis que c'est romanesque, c'est pas simplement les divas des années 50-60, c'est que il y a tellement de trajectoires extraordinaires, que ce soit Michel-Marie Poulain, Marie-André, le pasteur Doucet, c'est vraiment des personnages de roman, chacun.
Eh bien, on pourrait rester encore une heure de plus. Merci Maxime Forster d'être venu ce soir. Bistouri, oui, se termine. Donc,
le dernier morceau, c'est...
Comment ?
On va annoncer le dernier morceau.
Le dernier morceau, c'est une chanson que j'adore de Marie-France, qui est pleine d'humour. J'aime beaucoup les paroles. Et je l'avais vue récemment sur scène au Trianon. Et elle aussi, elle est absolument exceptionnelle sur scène.
Merci. Bonsoir à tous. La prochaine émission, c'est le 15 juin. Je pense que nous recevrons nous aurons une émission avec Chapin.
Je vais juste rappeler vite fait le titre du prochain manuscrit. Prochain livre. Du prochain livre de Maxime Foster, Histoire des transsexuels en France. C'est tellement sous la belle HEO. Mm-hmm. Oui. On verra.
Alors, la prochaine émission,
de toute façon, ce sera sur le site internet et puis on le réannoncera à l'antenne.
Merci. Alors, au mois prochain.
Au mois prochain.
Je regarde mon petit bordel. Comment suis-je arrivé là? Hier encore, c'était nickel. Sur le sofa, ou la séarde. La brosse à cheveux dans la moutarde. Il y a des pinceaux, des magazines. Aïe, plein de vaseline sur les feuilles d'un pot. Mais comment ai-je pu, en si peu de temps, mettre cet appart à l'envers? Il y a mes deux puces qui dorment là-dedans. Le chat persan et le coquet. Dans 5 minutes, Antoine est là. Je régale mon petit bordel. Comment suis-je arrivé là? Hier encore, c'était nickel. Dans 5 minutes, Antoine est là. Je regarde mon petit bordel. Et comment suis-je arrivé là? Hier encore, c'était nickel. Sur le parquet, je suis tête en l'air. Il y a les bijoux de la grand-mère. Et je rêvasse en peignoir de bain devant mes godasses en satin. Pourquoi ai-je mis dans ce frigo un crucifix et des fax? Et dans la boîte de Berlingo, quel boxon détente.